Et ce matin, deux, trois choses avant de commencer ma prédication. J'avais annoncé l'intitulé de la prédication, une rencontre avec Jésus, à partir de le texte de l'évangile des Jean, au chapitre 20, du verset 18 au verset 30. C'est le récit post-résurrection, où Jésus, pour la deuxième fois, il rencontre les disciples, tous réunis. J'aurais envie de dire peut-être la première fois, parce que la première fois, il manquait quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était Thomas. Et la deuxième fois, il les rencontre à nouveau avec Thomas qui était présent. Après, je ne sais pas si tu peux projeter la transparence, la numéro 2. Et donc, cette rencontre-là, dont je vais vous parler ce matin. Mais avant d'y parvenir, avant d'y arriver, avant de vous parler, qu'on plonge dans ce texte-là, j'ai organisé ma prédication en trois parties, avec grosso modo trois questions. La première partie, qui est cet homme? On pourrait dire aussi qui est ce Dieu. Cet homme est, donc quelques réponses possibles, parmi toutes les réponses possibles, de qui est cet homme, de qui est ce Dieu. Et la dernière partie, que j'ai intitulée « Qui est donc cet homme ?» dans une perspective de appropriation, dans la réponse à cette question. Moi, personnellement, j'ai été interpellé durant la préparation de cette prédication par rapport à cette question, la question de qui est cet homme. Et je me suis rendu compte, je l'avoue devant vous, que j'avais commencé avec une approche plus de la théologie systématique, en abordant peut-être pas mal des choses qui sont sur cette affiche, ici, devant vous. De qui est ce Dieu? Qui est cet homme? Et durant ce temps de réflexion, de préparation, le Seigneur a touché mon cœur et sa parole a touché mon cœur. Et j'étais interpellé à me dire que il fallait que je réponde moi-même avant de continuer la préparation de cette prédication à cette réponse, à cette question. Qui est cet homme pour moi? Et ça m'a amené à une révision autobiographique, à plonger dans ma petite enfance jusqu'à aujourd'hui pour essayer de répondre à cette question. Et pas le faire à partir juste d'une approche de théologie dogmatique, avec les réponses qu'on pourrait donner si on était interrogé lors d'un examen de théologie. Sinon de me dire, Pedro, qui est cet homme pour toi? Et il y a plusieurs réponses possibles et justes et bonnes. D'ailleurs, ce matin, on a chanté plusieurs chants, qui en parlent. Qui est cet homme? Notre sauveur, notre consolateur, celui qui est là dans les moments difficiles. Et c'est bien pour ça que ce matin, ma prédication, ce partage de cette prédication, elle est plutôt axée sur une approche autobiographique. Je ne veux pas vous raconter ma vie, en revanche, les choses dont je vous partageais ce matin, c'est des éléments qui sont tirés de mon expérience, de mon parcours personnel, avec ma marche avec Dieu, depuis tout petit. Et donc, ce n'est pas une prédication exhaustive par rapport à toutes les réponses possibles. C'est un partage de celles qui sont mes réponses et qui ont dessiné mon spiritualité dans ma marche personnelle avec Dieu. Et une invitation à vous aussi, ce matin, à se poser ces questions par rapport à votre propre parcours de vie, par rapport à votre propre autobiographie. Qui est cet homme? Qui est ce Dieu? Je vous invite à prier. Père, ce matin, je te loue, je te rends grâce et je te remercie de qui tu es. Dieu parfait, saint, juste, aimant, mais de qui tu es aussi, de qui tu as été, de qui tu seras pour moi, dans ma vie et pour chacun de nous. Nous nous attendons à toi et nous nous remettons à toi ce matin et que tout soit pour ton gloire, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc le texte des Jean 20, on va le lire, pas tout de suite. On va le lire quand on va arriver au point numéro 3. Point numéro 1, point numéro 2. Je vais vous partager ces réflexions qui sont tirées donc de mon cheminement, de ma marche personnelle avec Dieu. La prochaine, s'il vous plaît. Qui est cet homme? L'homme qui pose les bonnes questions. C'est Dieu qui s'intéresse à chacun de nous, individuellement, et qui cherche à avoir une relation personnelle, mais aussi une relation personnalisée. Et pourquoi personnalisée? Parce que chacun de nous, nous sommes des êtres uniques. Et c'est pas seulement, uniquement un slogan, nous sommes des êtres uniques. Dieu, il nous a créés en tant qu'êtres uniques. Et Dieu s'intéresse à nous, à vous, à nous tous, pour développer vraiment, et j'insiste sur le vraiment, une relation individuelle, mais en même temps personnalisée. Où il vient à notre rencontre, tout au long de notre parcours de vie, biologique ou spirituel. Et par rapport à ça, j'aurais envie de vous partager quelques éléments tirés de la Genèse, chapitre 16. Une histoire que vous connaissez sûrement par cœur. Et donc je veux me permettre juste de rappeler quelques éléments. C'est la rencontre de l'ange de l'Éternel avec Agar. Agar, la servante de Sarai, qui à un moment donné, elle a fui sa maîtresse. Et dans cette fuite, dans cette désolation qu'il vivait, qu'il subissait, l'Écriture nous dit que l'ange de l'Éternel la trouva. Et je lis Genèse 16 au verset 7. La trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Chours. Et l'ange de l'Éternel dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Ensuite, l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Israël. » Ismaël, pardon. « Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Il y a d'autres traductions qui vont traduire « L'Éternel t'a entendu dans ta souffrance. » Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce texte-là, qui est tiré de la Genèse, donc de l'Ancien Testament, où bien souvent on a l'impression que Dieu, c'est un Dieu lointain, un Dieu qui s'intéresse pas forcément à notre vie quotidienne. Mais là, l'ange de l'Éternel vient rencontrer Agar et il s'adresse à elle, comme nous le savons, par son nom, Agar. Et il lui pose deux questions. D'où viens-tu et où tu vas? Et si on analyse le texte, on voit que Agar, elle ne répond pas aux deux questions. Et il répond à sa manière, à partir de son vécu, à partir de ce qu'il vivait à ce moment-là, il répond partiellement à la première question. D'où viens-tu? En tout cas, elle répond comme elle l'a entendu, la question. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, je fuis de ma maîtresse. Parce que c'était ce qu'il vivait à ce moment-là. Et plus tard dans le texte, l'ange de l'Éternel dit à Agar, l'Éternel Dieu, il t'a entendu dans ta souffrance. Et qu'on continue à lire le texte vers la fin, dans verset 12, verset 13, verset 14, on voit que Agar, elle obéit. Elle, j'ai l'impression, moi, qu'elle leva un petit autel, mais en tout cas, le texte nous dit, au verset 13, qu'elle appela le lieu là où il y a eu cette rencontre, Ata El Roy. Le Dieu qui m'a vu. Et je trouve particulièrement intéressant parce que l'ange de l'Éternel lui a dit que Dieu avait entendu sa souffrance. Entendu sa souffrance. Et là, elle appelle ce lieu Ata El Roy, le Dieu qui m'a vu. Pour qui je compte? Pour qui je suis quelqu'un de valeur? Oui. Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Et ce Dieu, c'est cet homme, c'est Dieu qui s'intéresse à nous, et c'est lui qui nous entend, qui nous voit et pour qui nous comptons dans les aspects les plus quotidiens aussi de notre vie. La prochaine, s'il vous plaît. Ensuite, point 2, rencontre avec Jésus, cet homme. Quelques possibles réponses parmi les centaines des réponses possibles. Beaucoup parmi lesquels sont encore une fois affichés ici devant, dans cette affiche. Qui est cet homme? Qui est ce Dieu? Donc je vous rappelle que ces éléments sont tirés de ce regard sur ma vie personnelle, sur mon chemin de vie, sur ma marche avec Dieu, à partir d'une approche autobiographique, le Logos, tel que Jean 1 nous le dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Logos. Ce Logos qui a créé en Genèse 1 par la parole. Dieu, il a dit, et l'Écriture nous dit, il fut. Et là, en Jean 1, il nous s'est rappelé que Dieu était au commencement et qui était ce Logos. Ce Dieu qui est aussi dans cette relation qui est dialogique, qui est dans le dialogue, dans la relation personnelle avec nous. Pas seulement une relation individuelle et personnelle, mais aussi personnalisée, adaptée, accordée, ajustée à chacun de nous. On sait très bien aussi, et je le relève, mais il fait partie aussi de mon autobiographie, cet homme, ce Dieu qui est aussi le prophète, c'est lui qui nous annonce la volonté de Dieu. Le sacrificateur ou souverain sacrificateur, parce que c'est lui qui nous pardonne. Et dans son futur, en tout cas, de la perspective de l'eschatologie biblique, aussi le roi. Moi-même, je me suis posé la question si, effectivement, au-delà de l'accomplissement eschatologique de cette figure de Christ en tant que roi, s'il était déjà le roi de ma vie aujourd'hui ? Et ma réponse est que pas forcément dans tous les domaines. La prochaine. Hébreux 1, verset 1 au 3, tel que s'affiche, nous le rappelle. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Les disciples, nous le dit Luc 22, ils se sont posés cette question. Les gens de l'époque de Jésus se sont posés aussi cette question. Es-tu le Christ ? Ou, si tu es le Christ, dis-le nous. Je cite Luc, j'aurais pu citer Marc, Matthieu, il y a plusieurs récits qui tournent autour aussi de cette question. Et en Luc 22, 70, les Lévites disent à Jésus, question de Jésus en disant, tu es donc le Fils de Dieu ? Et lui, il répond, oui, je le suis. Et donc, d'une part, il y a cet aspect dont l'Écriture, la parole, nous montre, nous enseigne qui est cet homme, qui est ce Dieu dans l'absolu. Et après, il y a la dimension plus personnelle de qui est ce Dieu. Comment est-ce que nous nous approprions de cette vérité pour qu'elle devienne une réalité dans notre cheminement quotidien avec Dieu, dans notre marche quotidienne. Et parmi toutes les réponses possibles à cette question de qui est cet homme, la suivante, s'il te plaît, Fred. C'est celle de le Paraclétos. Vous trouverez là le texte de Jean 14, 16 qui nous dit « Et moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot par lequel est traduit « consolateur » dans ce texte-là est le mot « paraclétos » qui apparaît là dans le texte grec que j'ai mis pour que vous voyez d'où il est tiré. Et ces mots, sachez-le, je pense que vous le savez aussi, c'est un mot polysémique. Il y a plusieurs possibilités de traduction. Là, le traducteur a fait un choix. Il a traduit par « consolateur ». Il est consolateur, il est médiateur, il est avocat, il est intercesseur, il est beaucoup de choses. Et donc pour ça, je tiens à lire ce texte de la façon suivante. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclétos. » Parce que Dieu, parce que Jésus, cet homme qui est Jésus, qui est notre Seigneur, il est à nous, à chaque instant de notre vie, l'intercesseur quand il le faut. Il est tout pour nous, à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Donc j'aimerais vous inviter à retenir ce verset-là avec le mot paraclétos pour pas se juste focaliser sur cette possibilité de traduction qui est la d'être un consolateur. Mais ce qui est particulièrement touchant pour moi dans ce texte-là, c'est qu'il ne dit pas qu'il vous donnera un paraclétos. Sinon, il parle d'un autre paraclétos. Parce que lui-même, il l'était. Il était le paraclétos de ses disciples à ce moment-là. Je partirai, et il convient que je parte pour que le paraclétos, le paraclétos, donc parlant du Saint-Esprit, viennent, c'est moi qui le dis avec mes mots, pour me remplacer il restait avec vous jusqu'à la fin. Et lui, entre-temps, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Et bien évidemment, et je pense que vous le savez, il n'est pas là à rien faire. La Bible nous dit qu'il intercède pour nous et qu'il joue un rôle vital vis-à-vis du Père. Mais en même temps, ce Paraclétos qui est aujourd'hui avec nous, cet autre Paraclétos, donc le Saint-Esprit, il nous aide aussi dans l'intercession. Et il intercède lui-même aussi auprès de nous dans la prière, auprès de Dieu. Encore une fois, qui est ce Jésus ? La prochaine, s'il vous plaît. Qui est donc cet homme ? C'est l'homme que l'Écriture et Paul nous invitent à imiter. Parce que nous a laissé un modèle. Il est notre modèle. Paul le dit, « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis, ou je le suis moi-même de Christ. » Cet homme, notre modèle des références, une invitation à l'imiter à lui en tant que Dieu fait homme parmi nous. Et dans sa façon de être entré en relation avec ses contemporains. Et c'est là où on va revenir sur l'histoire de Thomas. La prochaine, s'il te plaît, Fred. Qui est donc cet homme ? Il est aussi notre source. Et je tiens à nouveau à mettre en avant le mot en grec, puisque la traduction de ce verset nous dit « Je puis tout parce que c'est lui, par c'est lui, pardon, qui me fortifie. Je puis tout par c'est lui qui me fortifie », en parlant de Jésus-Christ. Alors ce mot-là, il n'est pas aussi polysémique que le précédent, mais il y a plusieurs possibilités des traductions, mais le sens c'est de « celui qui me rend capable, compétent pour accomplir la tâche à laquelle il m'envoie ». L'Écriture, bien Paul nous le dit, il nous le rappelle, que Dieu équipe à tous ceux et celles qui appellent. Qui est donc cet homme ? Mon Paraclétos, mon modèle, ma source, et finalement, la prochaine, qui est cet homme ? Qui est donc cet homme ? Mon intercesseur. Le texte de Romains 8 nous dit qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et le mot grec utilisé pour qui est traduit comme intercession, on s'en va à cette idée de frapper le but, dans l'idée de quelqu'un qui lance une flèche. Et il y a un parfait parallèle avec cette image, ce récit de Job, contre l'accusateur. Il va se présenter devant Dieu pour accuser Job. Mais aujourd'hui, nous savons quelqu'un qui intercède pour nous auprès de Dieu. J'aimerais vous lire Hébreux 4, 15. Je pense qu'il doit être affiché, oui. Pour donner un élément de plus, complémentaire à la réponse de qui est donc cet homme dans ce contexte-là de Romains 8, 34. C'est lui qui intercède pour nous et qui intercède parce que il compatit avec nous. Parce que c'est Dieu qui s'est fait homme, nous le savons, sans péché, qui a habité, qui a vécu parmi nous, comme nous, sans péché, et qui a été confronté lui-même aussi à la souffrance, à la trahison, à la faim. Il a été déçu. Il a même pleuré. Pas par une puissance, sinon par cette capacité qu'il a justement de compatir avec notre souffrance ou nos soucis à nous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir avec nos faiblesses. Bien au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre péché, de péché. Et donc là, tout ça pour faire une petite préparation à la lecture de Jean 20, du verset 18 au verset 31. Et en ayant en tête cette question, qui est donc cet homme ? Je vous invite à lire ce texte en essayant. Je ne dis pas que forcément aujourd'hui vous sauriez la réponse, de répondre à cette question et de voir dans ce texte-là, qui est cet homme ? Cet homme dont l'Écriture nous invite à imiter, à suivre comme notre modèle. Et donc le texte de Jean 20, verset 18 au verset 31, nous dit « Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'il avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, verset 24, appelé Didyme, l'un des douze n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, cette fois-ci. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » C'est tout. C'est moi qui ajoute. 8 jours après, les disciples étant de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux, Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Et là, je trouve que le récit est vraiment touchant et interpellant. Parce que le récit nous dit que puis et ensuite, il dit à Thomas, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'était pas physiquement présent lors de cet échange entre les disciples et Thomas. Quand les disciples, ils sont annoncés, ils sont partagés à Thomas qui savait rencontrer le Seigneur. C'est là que Thomas lui dit, non, si je vois pas, si je touche pas, je croirai point. Jésus, il n'était pas présent, mais il savait ce qui s'était passé. Parce qu'il le sait, parce qu'il est omniscient, parce qu'il est Dieu. Mais aussi parce qu'il s'intéresse individuellement et personnellement à chacun de nous, dans notre histoire de vie, à chaque instant de cette histoire de vie. Et quand il les retrouve à nouveau la semaine d'après, après avoir fait la salutation, la paix soit avec vous, il s'adresse directement vers Thomas. Pourquoi? Je pense parce que il savait que Thomas, il avait besoin de cette rencontre avec lui. Parce qu'il savait que Thomas, il avait besoin d'être rassuré pour croire. Donc après sa salutation, il s'adresse à Thomas directement, sans reproche. Sans reproche. Il lui dit tout simplement, avance-toi Thomas. Avance-toi. T'avais besoin de voir? T'avais besoin de toucher? De mettre le doigt là où... Viens, fais-le. Je suis là pour toi. Parce que c'était le besoin de Thomas à ce moment-là. Il dit pas ça aux disciples, venez tous, regardez-moi, regardez mes marques, avancez vos mains et vos doigts et touchez. C'est un message personnel, mais aussi personnalisé à la personne de Thomas. Donc Jésus, qui vient vers Thomas, qui vient à sa rencontre, à partir de là où Thomas, il est dans sa vie, et en fonction de ce besoin. Et Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Qui est cet homme? Maintenant, je vous dis, et je reviens sur la partie autobiographique de ce partage de ce matin. Qui est cet homme? Qui est ce Dieu? Qui est donc cet homme, ce Dieu pour moi, pour Pedro Escobar? Et j'ai trouvé la réponse. J'ai trouvé ma réponse. Pour moi, cet homme, c'est Dieu, c'est le Dieu de la douceur. Quand je regarde mon parcours de vie, je suis ému, je suis pas triste, je suis ému de constater comment même avant d'avoir rencontré, en tout cas d'avoir été conscient de ma rencontre personnelle avec Dieu, il prenait déjà soin de moi. Et comme il s'intéresse à chacun de nous, il veut prendre soin de chacun de nous. Une histoire de vie marquée par l'abandon, une histoire de vie marquée par la torture, une histoire de vie marquée par la persécution, une histoire de vie marquée par la mort imminente à plusieurs reprises. Oui, une histoire de vie marquée de façon très dure. Comment je me suis en sorti, sincèrement? Je ne sais pas comment ça s'est opéré. Je sais uniquement que c'est Dieu qui l'a fait. Et ce qui m'emporte, c'est ça. Et dans tous ces moments, dans tout ce parcours de vie, s'il y a un élément qui est commun à chaque instant, c'est la douceur de Dieu à mes côtés. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous, à être ému de ce que Dieu est pour moi et de qui il est pour moi. Et je ne parle pas de la réponse systématique, théologique, je parle de l'appropriation personnelle de qui est ce Dieu pour nous, dans notre quotidien. Une rencontre avec Jésus, et de la même façon que dans l'Ancien Testament, Dieu, il a rencontré Agar, là où elle se trouvait, dans son malheur, dans sa souffrance. D'où tu viens, où tu vas, dans ce parcours de vie. Il vient à la rencontre des Thomas, là où il se trouve, dans son parcours de vie. Sans reproche, dans la douceur d'un Dieu qui compatit avec nous, qui s'intéresse à nous, qui s'intéresse à tous les aspects même, je dirais, banals de notre vie quotidienne. Un Dieu qui nous approche en douceur. Un Dieu qui est là, présent. Et je prie chaque jour pour que Dieu puisse, je puisse sentir sa présence à mes côtés. Parce que je sais qu'il est à mes côtés, mais vraiment la sentir et la vivre dans ma marche avec Dieu. Et je termine avec une histoire que je sûrement déjà racontée, au moins je sais une fois, qui est tirée d'un verset de Genèse 5, au verset 24, où il est dit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » J'ai déjà raconté que je suis issu d'une famille dont ma mère est catholique, mon père il était juif, et dans la tradition juive, dans la catéchèse que j'ai eue quand j'étais petit, par rapport à ce verset-là, il m'avait été raconté cette histoire. Une histoire qui aurait pu être comme ça, mais qui n'est pas tirée de la Bible, mais qui nous avait été partagée à nous en tant qu'enfants pour tout simplement nous dire est-ce qu'il aurait pu peut-être se passer à ce moment-là. Et donc le rabbin nous disait, vous savez, en fait, Enoch, il se levait chaque matin et il sortait se promener avec Dieu. Et tous les jours, il sortait et il marchait un petit bout de chemin avec Dieu. Et après, il rentrait, il revenait chez lui. Et le jour d'après, ou la semaine d'après, le temps d'après, il sortait à nouveau. Et à chaque fois, il allait un peu plus loin dans sa marche avec Dieu. Et semblerait-il, d'après ce récit, qui n'est pas tiré de la Bible, qu'un bon jour, ils sont allés tellement loin dans cette marche, et la nuit tomba, et au moment que Enoch a dit « Oh Seigneur, là il est tard, peut-être même trop tard, il faut que je rentre chez moi. » Dieu lui aurait dit « Enoch, tu sais, t'es plus près de chez moi que de chez toi, donc viens avec moi Enoch. » Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis de Dieu. Et je veux remercier Dieu dans la prière. Merci Seigneur pour ton amour, pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur, vraiment, vraiment, et que nous puissions, Père, nous approprier dans notre identité avec toi de qui tu es, comment tu prends vraiment soin de nous et tu t'intéresses à nous dans notre quotidien. Pour que nous puissions, Seigneur, nous édifier en toi et mutuellement chaque jour et te connaître davantage. Parce que viens, l'a dit Jésus, il est venu pour que nous puissions te rencontrer et te connaître. À toi, le Dieu, le seul et unique Dieu. À toi la gloire en Jésus-Christ. Amen.